Et donc, l'année d'après, tu vas produire Fuckly et là, tu vas amplifier un petit peu cette visibilité, cette mise en lumière de cette scène hip-hop.
Oui, c'est-à-dire que toujours dans l'idée de pouvoir proposer plusieurs choses différentes. Et à l'époque, ça ne manquait pas. Parce que comme je l'ai dit, il y avait vraiment des couleurs pour chaque crew. Si on voulait vraiment un son, on va dire, conscient ou traditionnel, ben, il y avait le Karukera crew qui utilisait beaucoup la langue créole, les anecdotes. Si on voulait quelque chose de plus cru, on se retournait un petit peu plus vers le Eno Clan. Donc, après avoir produit La Horde Noire, j'ai participé à un colloque sur les jeunes entreprises guadeloupéennes, sans faire de pub, au Crédit Agricole aux Abîmes. Et puis, j'avais mon stand, je présentais mon entreprise, les CD que j'avais sortis. Et ben, le groupe Eno Clan avait une prestation. Mais moi, j'avais déjà entendu parler d'eux. Mais mon frein, c'est qu'ils étaient très nombreux. Donc, pour pouvoir partager des royalties, enfin, sur le premier album, ils sont à 9, mais en fin de compte, dans le crew, ils étaient au moins à 12 ou à 13. Donc, ça a été mon frein, pourquoi je n'ai pas été vers eux. Donc, eux, ils sont venus vers moi. Après avoir fait La Horde Noire, donc, dans cette occasion, ils viennent me voir. Ils me disent, ouais, c'est vous qui Rico Debs? J'ai dit, oui, c'est bien moi. Ils me disent, ouais, ben, on y a été regarder chou là, parce que nous, qu'a écrasé scène-là. J'ai dit, ben, je suis là, je vais regarder, il n'y a pas de souci. Et effectivement, ils ont fait une superbe prestation, ils ont eu un très gros succès. Et puis après la prestation, ils reviennent me voir, ils me disent, alors qui j'ont trouvé? Bitin était bon, il était à Gouar, Bitin, on a produit nous. J'ai dit, ouais, c'était bien, c'était chouette, mais bon, vous êtes un petit peu nombreux, je ne pourrais pas produire tout le groupe parce qu'au niveau. Financier, je ne pense pas que vous allez vous retrouver et ça risque d'être compliqué. Mais on a fait un très bon contact. Donc après quelques temps, je me dis, bon, je vais tenter quelque chose parce qu'ils sont vraiment tous très doués, mais pour moi, il y a une personnalité qui se dégage du groupe et c'est Fokly. Donc quelques temps après, je vais à Lorisisk. Et je dis, ouais, tu sais quoi, Fokly, moi je pense que tu peux faire quelque chose de très bien. J'aime beaucoup ce que tu fais, mais le problème, c'est que je ne peux pas produire ton groupe. Donc je te demande de réfléchir. Est-ce que ça pourrait t'intéresser de sortir un album en solo, déjà pour voir comment ça marche? Est-ce que les gens aiment ou n'aiment pas ton style? Parce que la musique, c'est toujours un coup de poker. Hein. Un artiste peut être très fort, mais le public, à l'instant T, ne comprend pas ou n'apprécie pas sa musique. Donc, il prend une semaine, il réfléchit et il revient vers moi et me dit, bon, ben, je suis d'accord, on tente l'aventure et on fait mon album solo. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé avec Fokly. À l'époque, on a travaillé avec DJ Parrain et DJ Sky parce que je voulais vraiment avoir un son hip-hop. Donc, on a été travailler dans leur studio à Moule. C'est eux les producteurs de Malkema et ils produisaient. Des compiles aussi. Donc, on a enregistré, on a composé tout l'album chez eux. Et le dernier jour, avant qu'on aille poser les voix au studio, Fokly dit, je sens qu'il manque un truc, les gars. Je sens qu'il manque un truc. L'album, il est bien, mais il manque un côté un peu commercial. L'album, il est trop hard et j'ai peur que ça ne soit pas diffusé en radio et tout. Et puis à l'époque, c'est Scud qui composait pour lui. Donc Scud lui dit, ben, tiens, j'ai trouvé une mélodie hier soir, je te la propose. Et tu me dis si ça te va ou pas. Et il a composé le titre Boss, Boss, Boss. Après, on va en studio, on pose les voix, tout. Et Fokly revient encore, il dit, ouais, je pense qu'il manque quelque chose. Et il me dit, ouais, ça aurait été bien de faire un truc peut-être un peu zouk, hip-hop, parce que les radios seront plus susceptibles de pouvoir passer ce genre de titre. Donc on travaille à l'époque avec Rigobert Montpierre, qui est l'ingénieur de mon père au studio. Donc on lui dit, quel morceau zouk tu peux nous faire écouter, qui fait un peu rap et tout, qu'on pourra faire des arrangements. Et puis on tombe sur Sexy Ladies, que c'est Frédéric Caracas qui l'avait composé. Mais on a fait pas mal d'arrangements pour que ça soit un petit peu plus hip-hop. Donc on fait le titre, on enregistre l'album. On se dit, bon, on va pas tenter le diable, on va arriver avec un son zouk hip-hop, et puis ça nous met une petite sécurité de diffusion au niveau des médias, parce qu'à l'époque, et même un peu toujours aujourd'hui, les médias, ils sont très compliqués. Donc voilà, on joue cette carte, et puis le titre est très bien accepté, ça fonctionne bien, on vend des albums, il est demandé en prestation, à tel point qu'en septembre, on doit partir à Paris pour pouvoir répondre à quelques dates de boîtes de nuit qui nous appellent. Entre-temps, je mets en place la communication. Je dis, bon, celui-là est déjà passé. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, mais toujours en restant commercial. Parce qu'à l'époque, tous les artistes hip-hop, c'était compliqué de leur faire du commercial. Le premier qui a vraiment franchi ce cap, c'est Folklin. Personne ne voulait faire de concessions dans leur musique. Ils voyaient leur musique à leur façon. Et lui, il s'est dit, bon, je fais un coup de zouk, je fais un petit coup de hip-hop commercial. Parce que je pense que lui, il était vraiment obligé que sa musique fonctionne pour pouvoir boire et manger. Ce n'était pas une passion, c'était son gagne-pain. Donc après, on lance le titre Boss Boss Boss, qui a eu un succès phénoménal. Et c'est comme ça que l'aventure de Folklin a commencé.